Allez, salut à tous et bienvenue sur Deeply Rooted, l'émission consacrée au rap US. On est ensemble pendant une heure. C'est la première, donc on vous fera un petit récap du concept de l'émission, des idées qu'on va développer avant d'attaquer le vif du sujet. Et on va faire avant toute chose les présentations. Moi c'est Maxime et je serai accompagné ce soir et durant chaque émission de mon compère Joachim. Comment ça va Jojo ?
Tout va bien, salut à tous.
Voilà, donc comme je l'avais dit, on va revenir rapidement sur le concept. À chaque fois, on va essayer de vous présenter pendant une heure donc un style de rap particulier, un sous-genre de cette musique. Des choses un peu méconnues, parfois un peu obscures, mais qui ont laissé une empreinte notable sur le rap US. On va faire ça sous un angle un peu particulier qui va être celui de la localité, c'est-à-dire le contexte géographique et social dans lequel ça a été créé. Comprendre pourquoi ça aurait pas pu se faire ailleurs, que c'était là, à ce moment-là, qu'il fallait que ça se passe. Vous allez y voir plus clair avec le sujet du soir et je vais vous laisser Jojo le présenter.
Le menu de ce soir, donc on s'arrête à Houston. Houston, c'est une ville du Texas, donc dans le sud des États-Unis. Le sud dans le rap, ça a mis un peu plus de temps à émerger par rapport aux scènes à l'est et à l'ouest. Houston, ce sera une des premières qui aura des rappeurs à émerger nationalement. Donc on aura d'abord, il y aura trois piliers, donc il y aura d'abord Scarface avec les Ghetto Boys et le label Rap-A-Lot qui auront un style encore un peu trop new-yorkais on va dire. Ensuite il y aura UGK qui a un style plus marqué par le sud avec des sonorités un peu bluesy, vraiment texan, country, tout ça. Et enfin notre sujet du soir qui sera DJ Screw et voilà, qui aura créé lui un véritable sous-genre, une véritable marque, le style Chopped and Screwed. Et qui aura une influence très importante, enfin en tout cas assez importante dans les, jusqu'à aujourd'hui, avec des artistes qui s'en inspirent encore, voilà.
Ok, ben on va voir tout ça avec vous. De toute façon, on va vous balancer régulièrement du son pour vous mettre dans le bain. Et on va commencer avec quelque chose de plutôt récent, avec un artiste qui ne vient pas de la scène de Houston, que j'apprécie beaucoup, vous allez sans doute reconnaître. En tout cas, lui, on peut dire qu'il s'est clairement inspiré des techniques originaires de DJ Screw. On se retrouve juste après, on envoie le son. Voilà, c'était Purple Swag d'A$AP Rocky, rappeur new-yorkais. Le son est sorti en 2011 et se prête plutôt bien au sujet d'aujourd'hui. Comme vous avez vu, il est clairement inspiré. Enfin, il y a vraiment des parties, je crois.
C'est même un hommage, en fait.
Ouais, carrément. Bah, on va revenir sur l'histoire du violet, mais voilà, la couleur plus les petites parties un peu Screw and Chop, on est clairement dans l'hommage, comme tu dis. Avant de voir comment ça a atteint New York, justement, on va faire un petit retour sur sa création, voir un peu dans quel contexte social et musical c'est apparu, et s'intéresser donc à la ville de Houston. Donc cette grosse ville du Texas, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui s'est développée dans les années 40, notamment autour de son port et de ses industries pétrolières, avant de subir un véritable boom dans les années 60. Et avec l'apparition notamment de son centre spatial qui est très connu, et bon, c'est la première ville à avoir été prononcée sur la Lune, je ne sais pas si ça peut être une fierté ou quoi, j'imagine quand même. Et au même moment, il y a eu une forte migration en fait, des populations noires venant de Louisiane, et au fur et à mesure, la ville est devenue de plus en plus multiculturelle, avec notamment une grosse communauté afro-américaine. Ça s'est ressenti à travers les premiers divertissements qui sont apparus, et les premières sonorités, jazzy, blues. Et pas très loin, bien sûr, il y a eu la Nouvelle-Orléans qui, de ce côté-là, a envoyé du son à foison. Et la comparaison n'était pas forcément évidente pour Houston au départ. Pour ce qui nous intéresse, les rappeurs, c'est réellement à la fin des années 80, au courant des années 80, que ça a commencé à faire son trou, notamment avec le fameux label Rap-A-Lot, qui va se développer et exploser par la suite. On va s'intéresser aussi avec Joachim, justement, qui va nous en parler, d'un autre phénomène qui est très lié à cette ville, encore présent aujourd'hui, et qui malheureusement est très difficile de dissocier du son qu'on va présenter aujourd'hui. Bah, je te laisse la parole.
Ouais, bah en fait, c'est un phénomène qui est totalement lié avec la musique qu'on va parler aujourd'hui. C'est tout simplement la drogue en fait, la drogue qui s'appelle aujourd'hui le purple drink, ou encore la lean, le sirop quoi. En fait c'est dans les années 60 que ça s'est développé. En fait c'était les addicts au crack qui utilisaient du sirop pour la toux, donc qui est avec deux, sont la codéine, enfin constituée de codéine et de prométhazine, si je me trompe pas.
Codéine qui est un médicament à la base, quoi, qui sert à soigner.
On en trouve
encore aujourd'hui. Hein.
Ouais, donc ça se trouve en pharmacie, c'est les addictocrates qui utilisaient ça, comme je disais, et ce sont les ados qui vont se mettre à eux pour vouloir imiter leurs aînés et utiliser donc ce produit-là sans crack, hein, mais quand même et se rendre compte qu'en fait ça procurait aussi des effets, c'était une drogue en soi. C'est devenu en fait la drogue du pauvre dans les années 60. Au début, ils mélangeaient ça avec de l'alcool, je crois, ou voire tout seul, je sais pas trop. Mais c'est dans les années 80 que va naître réellement ce qu'on appelle le purple drink, qui est donc mélangé avec du soda. Ils ajoutent aussi parfois des bonbons, ce qui rajoute du goût, etc. Et c'est important de parler du goût parce que c'est le goût qui apparemment accroche les consommateurs. C'est à chaque fois, s'ils parlent du goût, c'est quelque chose de très bon. Et donc ça devient vraiment un fléau dans les années 80 et dans les années 90 après, notamment avec les rappeurs dont on va parler aujourd'hui qui vont vraiment prendre ça, voire même glorifier ça, et ça y a vraiment une épidémie au niveau des rappeurs de Houston. Il y a un nombre de rappeurs morts.
Ouais, parce que tu parles du goût, mais c'est vrai que les effets sont quand même assez violents, quoi. Je crois que tu vois un peu au ralenti, on reviendra sur ce délire justement de ralentissement, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est un fléau parce que les effets sont... Enfin, c'est une drogue dure quand même.
Ouais, carrément. En fait, tu vis un peu au ralenti quand tu prends ça, je crois. Hein, d'après ce que j'en ai lu, c'est euphorisant, c'est très relaxant. Et ça se prête bien au climat de Houston, parce que là-bas, il fait très chaud, très lourd. Je pense que c'est pas pour rien que ça s'est né là-bas.
C'est Slim Thug, je crois, qui disait ça dans une interview, justement, que là-bas, ouais, à Houston, tout se passait au ralenti, et que ce soit pour la musique ou pour les drogues, voilà, ce ralentissement est vraiment lié aussi au contexte géographique, la chaleur, le Texas. Voilà.
Carrément, ouais. Ils disaient aussi que justement au sud, ils prennent des trucs plus speed, etc. Ouais, c'est Slim Thug, donc c'est un rappeur dont on parlera peut-être un peu aussi aujourd'hui, qui est issu de Houston. Le truc, c'est que les consommateurs, ils prennent pas vraiment ça au sérieux, comme tu dis. Ils pensent que c'est un truc récréatif, c'est vraiment genre limite un truc social, quoi. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est vachement addictif, alors qu'il y a quand même des énormes effets secondaires. Donc ça peut aller jusqu'à la mort, hein, mais il y a une énorme prise de poids, il y a des démangeaisons, ça crée des problèmes cardiaques. Et voilà, il y a le rappeur Danny Brown, de Détroit qui en parlait, et qui disait que quand il avait essayé d'arrêter,
problème... Tu en chies, quoi.
Ouais, on peut dire ça. Ouais. Bah, t'as des problèmes gastriques, t'as la chiasse, quoi. Voilà. T'en chies, t'as la chiasse, etc. Et le truc, c'est qu'il y a une grosse hypocrisie aussi de la part des industries pharmaceutiques qui nient un peu ce problème-là, qui n'assument pas leur part de responsabilité dans la distribution d'un produit qui est à l'origine d'une épidémie dans le sud, mais maintenant à travers le rap et notamment par rapport à ce qu'on va parler aujourd'hui, maintenant ça s'est propagé pas seulement à Houston, mais dans tout le rap de partout aux États-Unis, voilà.
Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que c'est intimement lié, malheureusement, parce que on va le voir avec la musique, mais c'est vrai que ça a eu une influence vraiment néfaste et que c'est vraiment une drogue, un vrai fléau, comme tu as dit. De toute façon, avant d'entamer le cœur du sujet, justement, et là on va retourner sur le son et le Screw and Shop, et avec DJ Screw, on va s'écouter un premier morceau de lui.
Petit aperçu.
Ouais, voilà, là où ça va vous mettre vraiment dans l'ambiance, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment stylé et particulier. C'est un son sorti en 95 qui s'appelle Silent Death House. Allez, à tout de suite. Voilà pour ce morceau tiré du projet de DJ Screw, 3 in the Morning, c'était Silent Death House. Version Screw and Shop d'un titre DSG, un autre rappeur de la ville de Houston qui va participer au développement de ce genre. Je pense qu'on en dira un mot tout à l'heure, Joachim.
Sur ESG, oui, tout à fait. C'est un rappeur de la Screwed Up Click dont on parlera après plus en détail. Ouais.
Ok, bon, on va d'abord faire un petit retour sur le personnage de DJ Screw, dans quel contexte il a grandi et d'où lui est venue cette idée et cette technique du Screw and Shop. Donc je te laisse faire un petit récap sur son évolution.
D'accord, donc en fait, DJ Screw ne s'appelait pas DJ Screw à l'origine, il s'appelait Robert Earl Davis Jr. Il a été élevé par sa mère, lui et sa sœur, à Smithville, mais pas Houston, mais Smithville, c'est pas très loin. Ça reste dans le Texas. Et donc sa mère, comme elle est seule, elle travaille beaucoup, elle cumule des emplois pour subvenir à ses besoins et à leurs besoins avec sa sœur. Et elle est aussi très très fan de musique. Enfin, elle écoute beaucoup de musique. Elle a une platine. Donc lui, il est très vite amené à jouer avec la platine. Il écoute beaucoup de musique déjà, et puis il joue, il a trituré le son, etc. Et par ailleurs, sa mère, elle écoute aussi beaucoup la radio. Puis elle enregistre les morceaux qu'elle aime, et puis elle fait des compilations. En fait, elle fait ça pour elle à la base, mais ses amis commencent à lui demander aussi de lui en prendre, lui en acheter, en fait, et puis elle fait...
Elle fait un petit business artisanal, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Et bon, on dit ça, mais en fait, c'est parce que ça aura une importance après dans la mode de distribution de la musique de DJ Screw, une fois qu'il sera établi, quoi. Bref, on va revenir donc sur ses débuts après en tant que DJ. Ce sera quand il aura déménagé à Houston chez son père. Il commence à se mettre dans le son à fond. Et puis... avec son cousin, à un moment donné, ils sont posés. Puis lui, en fait, dès qu'un truc lui plaît pas, dans tout ce qu'il écoute, quand un truc lui plaît pas, bah, il défonce le disque, le vinyle. Et en fait, screw, ça veut dire, c'est un mot d'argot en anglais qui veut aussi dire baiser. Enfin, tordre, baiser. Enfin, là, et du coup, son cousin lui fait, ouais, mais toi, en fait, tu te prends pour c'est quoi ton truc, tu t'appelles DJ Screw, quoi. Et au début, c'est une sorte de blague, quoi. Mais lui, il dit, bah ouais, ça sonne bien, j'aime bien. Donc il garde ce titre, quoi. Voilà, ça c'est pour son nom. Il a déjà trouvé son nom de scène, etc. Et après, c'est un jour, pareil, posé chez lui avec un pote. Il appuie sur le bouton, c'est le bouton pitch, en fait, de sa platine, qui baisse la fréquence. Et du coup, il entend le morceau ralenti. Et puis, bref, c'est un accident, mais ça lui plaît, il trouve ça plutôt sympa. Et...
Bah lui, à la base, il écoute plutôt des sons West Coast, quoi, il me semble. Il est plutôt inspiré par ce délire-là, non ?
Ouais, carrément, il est vite, c'est plus la West Coast qui l'inspire. Il dit que je crois que son rappeur préféré, c'est Cibo, qui est un rappeur de la Bay Area.
Ouais, j'avais vu ça aussi. Bah pour revenir vite fait sur son invention, quoi, au niveau technique, sans être un spécialiste, mais ça peut donner des idées et parler un peu justement aux DJ qui pourraient nous écouter. La première partie qui est ralentie, qui est comprise dans le screw, c'est vraiment, comme tu dis, en touchant au pitch du morceau, c'est-à-dire en diminuant sa vitesse. Et à ça, il rajoute une baisse du tempo et il descend généralement à 60-70 BPM sur ses morceaux, donc qui donne vraiment un effet slowly, quoi, bien ralenti. Et l'autre partie, shop, donc là qui veut dire hacher carrément, c'est vraiment sa petite technique. Il trouve ça, en fait, il met deux platines avec le même son, il les met en parallèle. Il met un petit décalage sur la deuxième.
C'est histoire aussi qu'on peut dire que c'est vraiment un DJ, il n'a pas juste appuyé sur le bouton ralentir. Hein,
Ouais, après il y a vraiment de la technique derrière. Bon, après il va faire aussi un peu du scratch, etc. Mais là il trouve ce truc-là avec ses deux platines, et après avec le crossfader au milieu, il passe de l'une à l'autre rapidement et il donne cet effet haché de répétition au morceau, à certaines phases du morceau, pour accentuer notamment l'impact des lyrics. Alors ça donne un style particulier, on l'a entendu dans le premier morceau, on réécoutera ça après. C'est assez spécial, mais ça cartonne bien là-bas, il me semble. Enfin, après, du coup, il commence à faire du bruit, quoi.
Ouais. Bon, en fait, comme je disais, à l'origine, c'est juste lui et son pote, comme ça, sur l'histoire de l'accident et tout. Mais lui, il pense pas du tout à une carrière ou quoi là-dessus. Hein. C'est vraiment son pote qui lui dit, bah... Tiens, moi j'aime vraiment bien, fais-moi toute une tape là-dessus, comme dans ce style-là, ralenti et tout. Donc il fait bon, bah si tu veux, il trouve ça bizarre, mais il le fait. Et puis ensuite, bah, comme son pote, ça marche bien, enfin, il arrive à faire parler de lui avec ça, bah, il y a les potes de son pote qui viennent le voir, bah, plus en plus de monde qui lui.
Il y a le bouche à oreille qui se met en mouvement. Quoi.
Ah, voilà, c'est ça. Donc c'est plus quand même, ça reste les rappeurs de son quartier, mais quand même. Il y a de plus en plus de monde qui se fait sa petite réputation comme ça, autour des versions screw and chopped de beats déjà, qui existaient déjà. Hein, mais voilà, il fait des petites versions comme ça. Et si bien qu'à un moment donné, il commence à organiser des sessions carrément où les rappeurs viennent freestyler chez lui. Et lui, il choisit, il présélectionne des beats qui peuvent bien se prêter à cet exercice-là. Et puis après, une fois qu'il fait les sessions, après, il fait des compiles avec. Il fait des versions school and shop de morceaux. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être soit des morceaux de rappeurs de Houston, soit des morceaux de. Il y en a pas mal de Tupac, par exemple. Enfin, de trucs de West Coast, hein, G-Funk, etc. Et en même temps, il y a des freestyles aussi qui peuvent durer jusqu'à une demi-heure. Je crois qu'il y en a un des plus mythiques, s'appelle June 27. Donc,
ouais, il est dispo sur YouTube, je crois, vous pouvez le retrouver.
Ouais, tout à fait. Ouais. Il dure 35 minutes. C'est sur un beat de Chris Cross. Et 38 minutes de freestyle, c'est complètement n'importe quoi. Et donc voilà, une fois que ces compiles là sont faites, en fait c'est comme ça qu'on sont nés ce qu'on appellera les screw tapes. Donc notamment celle dont je viens de parler, June 27, c'est dans une cassette qui s'appelle June 27. Bon, ça a sûrement enregistré un 27 juin, j'imagine. Et donc voilà, au début c'est juste des petites cassettes qu'il achète, lui il les achète à la centaine, voilà, enfin un truc de 2 heures, et puis il met une étiquette, il écrit au feutre un nom, le nom qu'il aura choisi, quoi, à la base. Mais ça va vite devenir un truc un peu plus élaboré, quoi, enfin plus professionnel, entre guillemets, quoi.
Ouais, bah comme d'hab, on commence avec de l'artisanal, du truc main à main, etc., avant que ça prenne vraiment de l'ampleur et que le business devienne plus gros. Bah, si c'est bon pour l'instant, on va s'envoyer un deuxième morceau de DJ Screw, qui est My Mind Went Blank, qui est sorti en 95 sur le projet All Screwed Up. Et ouais. on se retrouve après pour la suite. C'était à nouveau DJ Screw avec My Mind Went Blank. On est en plein dans le Screw and Shop, là. J'espère que ça vous plaît. Un petit mot à dire sur ce son, peut-être ?
Ouais, My Mind Went Blank, donc c'est comme tu disais, c'était sur le projet All Screwed Up. C'est un morceau de Point Blank à la base, c'est un rappeur aussi de Houston. Et en fait, bah, All Screwed Up, du coup, il faut quand même préciser que c'est une des seules sorties officielles de DJ Screw, avec aussi 3 in the Morning, qui est en deux parties, dont était issu le premier morceau qu'on a mis tout à l'heure, Sail in the South. Mais en fait, DJ Screw, sa discographie, c'est essentiellement les Screw Tapes dont on parlait tout à l'heure. Il y en a. Il se découpe en chapitres. Alors c'est incompréhensible parce que les chapitres sont pas dans l'ordre quand vous regardez. Le chapitre 1, c'est pas la première. Enfin, ils sont pas dans l'ordre, mais il y a environ 330, je crois, un peu dans ces eaux-là. Enfin, c'est énorme, quoi.
Ouais, le mec était super prolifique. Bah d'ailleurs, ce côté cassette, on le retrouve un peu dans le son. Hein. Moi, au début, quand je me suis replongé là-dedans pour préparer l'émission, c'est vrai que déjà, il y a un côté bug du radio cassette quand on écoute ce qu'il fait, quoi, parce que le côté ralenti, on a l'impression que les piles sont à plat, etc. C'est pas évident d'accrocher et d'écouter 15 morceaux à la suite. Hein. Il y en a qui arrivent très bien. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Mais finalement, on s'y met et on voit que c'est clairement fait pour se détendre, planer. Et que finalement, ça met dans une bonne ambiance.
Ouais, mais en fait, je pense qu'il y a personne qui écoute ça la première fois et qui adore. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Quand j'ai commencé, je me suis dit, mais c'est quelle idée, quoi. C'est n'importe quoi. Mais après, c'est en m'intéressant justement à tout ça qu'en fait tu te rends compte qu'il y a tout un truc, toute une mythologie en fait autour de ce personnage-là et de ce style de musique. C'est là que tu te plonges un peu plus, et plus t'en écoutes, plus tu rentres un peu dans le délire, quoi. Et t'as vraiment cet effet ralenti, très vaporeux, très cotonneux. C'est un peu hypnotique. Enfin, tu te mets dans une bulle, quoi. C'est assez fou.
Là, on rejoint un peu le côté drogue, encore une fois, le côté entrelié, intimement lié entre les deux.
Ouais, complètement, c'est ça en fait. Tout à l'heure, on disait que c'était adapté au style de vie de Houston, la drogue, on parlait de la drogue, et cette musique-là, elle se greffe totalement à l'état euphorique, complètement relaxé. Des gens qui en consomment. Enfin, d'ailleurs, DJ Screw en consommait beaucoup. Il faisait partie des gens comme ça, des jeunes qui en consommaient énormément. Après, faut pas pour autant penser qu'on est obligé d'être défoncé à la ligne pour apprécier ce style de musique, mais on va dire que ça ajoute sûrement un petit truc.
Ouais, et puis là où la drogue rentre même dans l'aspect artistique, parce que tout, on parlait tout à l'heure du visuel, violet, on y reviendra, tout ça, dans l'imagerie, dans toutes ces choses-là, c'est vraiment lié. Moi, par exemple, en préparant, c'est un petit parallèle qui m'est venu à l'esprit, c'était celui avec le rock psychédélique et la LSD. Ils étaient partis un peu dans ce délire-là dans les années 60, avec pareil une musique adaptée et limite faite pour accentuer les effets de la prise de drogue, un truc hypnotique, au niveau rythmique, etc. C'était vraiment fait pour être planant et surtout c'était pas caché, c'était vraiment assumé, ça rentrait dans l'imagerie et le concept des sons, quoi.
Ouais, bah les rappeurs ils étaient eux-mêmes, ils avaient eux-mêmes ce style de vie et donc et en plus comme on disait tout à l'heure, ils se rendaient pas forcément compte de la gravité du truc, donc ils hésitaient pas du tout à en faire la promo, quoi, et faire la pub de ce style de cette drogue et de ces, voilà, la façon d'en consommer. Tu parlais de la LSD et du rock psychédélique, c'est vrai, quoi, il y a clairement ça. Moi, en fait, ça me faisait surtout penser au dub et aux versions de dub, tu sais, des morceaux reggae. C'est Lee Scratch Perry qui a inventé ça pour le reggae. Et il y a vraiment, la première fois, j'ai eu la même réaction quand j'écoutais du dub. Je me dis, pourquoi il fait ça, c'est un peu bizarre. Et pour le reggae, forcément, c'est associé à la consommation de weed. Mais c'est un peu la même chose, ouais, sinon. Pour revenir à notre sujet, donc les rappeurs, en fait, ils en font énormément la promo de cette drogue dans leurs lyrics et aussi sur leur imagerie, comme tu disais, les pochettes d'albums. Pour donner un exemple, il y a le rappeur Big Mo qui est un des proches de DJ Screw qui a deux albums. Il y en a un qui s'appelle City of Syrup. Là où sur la pochette, il est carrément en train de verser un mélange violet, donc on imagine très bien ce que c'est sur les buildings de Houston. Et le deuxième album s'appelle Purple World, je crois. On reste toujours dans le thème, quoi. On va revenir un peu sur DJ Screw, donc toutes ses cassettes et les freestyles qu'il organise chez lui. En fait, il est tellement ça, il commence à avoir un tel succès, et puis c'est tellement tellement amateur encore comme truc que les gens viennent acheter chez lui les cassettes. Je crois qu'il organise des heures de vente. Il dit à partir de 18 à 20 heures, vous pouvez venir chez moi, vous pointer et pour aller acheter mes cassettes. Et sauf que du coup, il y a des queues énormes. C'est vraiment le supermarché, quoi. Et ça fait tellement bizarre que les flics, ils pensent que c'est la légende. Les flics pensent que c'est un dealer, en fait, qui vient chercher leur drogue, quoi.
C'était un peu ça au final.
Ouais, en fait, on peut voir
chercher
ça
leur dose de DJ Screw, quoi.
Exactement. Ils pouvaient plus passer de sa musique et de ses effets relaxants. Et du coup, au bout d'un moment, quand même, il se fait quand même assez d'argent, donc il peut monter son propre truc. Et il ouvre le magasin Screwed Up Records and Tapes, qui existe encore aujourd'hui. Je crois qu'ils l'ont relocalisé. Mais voilà, ça a prospéré même après sa mort.
Ouais, puis c'était toute une bande autour de lui, quoi. Il avait tout un tas de mecs qui gravitaient et qui posaient avec lui, non ?
Comme je disais tout à l'heure, les sessions qu'il organisait chez lui, il a rassemblé une bande en fait autour de lui qui s'appelait la Screwed Up Clique. Donc ça se rejoint, Screwed Up Records, Screwed Up Clique, et donc Screwed Up Clique, c'est un truc assez énorme. Je crois qu'il y a une quarantaine de rappeurs et c'est un peu toujours les... On a cité Big Mo tout à l'heure, il y avait aussi ESG dont on a parlé, on a passé le son remixé tout à l'heure. Eux, ils font du son, ils font pas directement du son School and Chop, c'est souvent après repris par DJ Screw, et ils vont aussi freestyler chez DJ Screw, mais sinon eux, ils font du son qui sera assez typique du sud, voilà, avec toujours un peu les mêmes thèmes. Il parle de meufs, de voitures pimpées, un truc qui s'appelle les slab cars. C'est un délire de Pimp My Ride, quoi, en fait, et voilà, et les fêtes et tout ça. Et tu t'allais dire un truc, non ?
Non, c'est ça, ouais, les femmes, enfin pour changer, quoi, les femmes.
Ouais, voilà, c'est les thèmes assez, assez classiques, on va dire, dans ce genre de rap. Et voilà, comme on disait aussi, bien sûr, la consommation récréative de drogue, surtout la codéine et un peu la weed. En termes de production, ils ont un son un peu qui a été hérité un peu en fait du label Suave House, qui est un label, je crois, quand même de Houston, mais qui s'est d'abord fait connaître avec 8ball et MJG, qui sont MJG, excusez-moi, qui sont originaires de Memphis. Et on est dans c'est une sorte de G-funk, mais qui est plus lourde. Encore une fois, adaptée, un peu plus lente, un peu adaptée au un feeling plus texan, plus sudiste. Et un côté un peu plus blues et country aussi. Et les refrains sont souvent chantés. Les rappeurs de la School of Click savent souvent chanter, font souvent des refrains un peu chantés. Donc je peux noter, enfin je peux vous
on peut donner quelques exemples voilà. D'artistes. Bah, tu avais dit donc Big Mo tout à l'heure. Il y a ESG qu'on a déjà évoqué. Il y en a un qu'on va écouter après.
Ouais, bah en fait, il y a, donc, comme tu as dit, Big Mo ESG, il y a Fat Pat. Fat Pat, je vous conseille l'album Ghetto Dreams qui est vraiment excellent. Big Hawk, qui est le frère de Fat Pat, qui est aussi un peu dans le même style, tous les deux. Et ils savent tous chanter, en fait, c'est ça qui est fou. Ils ont vraiment ce style assez particulier. Il y a Big Mello aussi, qui a sorti un album magnifique qui s'appelle We Gone Funk With Your Mind. Alors, c'est en un mot, c'est vachement. C'est bon, mais si tapez Big Mello, vous trouverez, c'est vraiment un super album. ESG, dont on a parlé, qui a aussi un album Ocean of Funk qui est vraiment à conseiller. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a les Botany Boys qui sont aussi sympas avec. Je sais plus comment ils s'appellent leur album, mais bon, enfin, il y a quand même, je crois qu'il y a, comme je l'ai dit, il y a une quarantaine de rappeurs. Enfin, c'est
on va pas tous les faire, mais après, c'est vrai que si vous voulez approfondir, vous avez de quoi faire. Déjà, vous avez les 300 tapes de DJ Screw, et avec tous ces mecs-là qui ont un peu gravité, qui ont continué à faire ce travail autour du Screw and Shop.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, pour le coup, là, justement, c'est on va vous passer du son qui n'est pas Screw, là, qui est avant. Avant le School and Shop, enfin, avant d'être passé à la moulinette DJ Screw, mais pour vous donner un petit aperçu un peu de ce qu'ils font par ailleurs.
Ouais, bah on va s'écouter Fat Pat que tu as évoqué avec son morceau Ghetto Dreams, qui est du coup sur l'album du même nom, ouais, j'imagine. Voilà, et ensuite, un truc beaucoup plus récent, enfin plus récent, ça date déjà. Moi, c'est un des premiers sons avec lesquels j'ai fait connaissance avec Houston. C'est Swang de Trey the Truth avec...
Swang, excuse-moi.
Et avec Big Hawk. Donc, Fat Pat, Ghetto Dreams et ensuite Trey the Truth avec Swang. Allez, on se retrouve après. On se retrouve pour cette dernière partie de Deeply Rooted. On est toujours sur le rap US, on est à Houston. Les morceaux, c'était Ghetto Dreams de Fat Pat, le premier, et ensuite Swang de Trey the Truth, en feat avec Big Hawk, un morceau qui...
Frère de Fat Pat, hein, Big Hawk.
Ah bah voilà, tu vois, je ne savais pas.
Le lien était parfait, quoi.
Un morceau qui rentre bien dans la tête et je vais l'avoir pendant un moment. On va enchaîner avec la dernière partie de l'émission consacrée à l'héritage de DJ Screw. Comment il a pu influencer les générations futures dans sa ville, mais aussi dans tout le pays. Si on parle d'héritage, c'est bien sûr parce qu'on aurait pu penser que sa musique, son son allait s'arrêter. Il est décédé en 2000, il me semble.
Ouais, exactement, il est décédé en 2000. Comme on disait tout à l'heure qu'il y a toute une épidémie de rappeurs morts, évidemment, la raison de sa mort, c'est un abus de codéine mélangé à de l'alcool, je crois. Et donc il y avait lui, il y avait Big Fat Pat qu'on vient d'écouter, enfin le premier deux morceaux qu'on vous a mis là. Lui, il y a Big Mo qui est mort un peu plus tard. Il y a PMC aussi, une des moitiés du GK qui est mort là de ça. Enfin, c'est vraiment énorme quand on regarde la liste des morts à cause de cette drogue là. Enfin, bref, donc il est mort en 2000, mais sa création, son bébé, le Chopped and Screwed, n'est pas mort avec lui, hein, sinon on n'en parlerait pas. Et un des premiers héritages, en fait, c'est une autre partie de la ville de Houston, dans le nord, c'est deux DJ qui vont monter le label Swisher House. Donc c'est Michael 5000 Watt et OG Ronci qui fondent donc Swisher House. Et qui notamment Jironcy qui fait ils font tous les deux des séries de mixtapes en Chopped and Screwed. La plus connue, c'est Fuck Action de Jironcy qui reprend des morceaux R&B en Chopped and Screwed, qui est assez intéressant. Enfin, ça change un peu, on va dire, de DJ Screw qui est toujours du... Ouais, il mettait aussi du R&B, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais il mettait aussi du R&B, mais par-ci par-là, quoi. C'était un peu c'était juste des petits échantillons, quoi. Alors que là, c'est vraiment toute une tape de 1h30 dans Fuck Action, ce dont je parle, par Roger Ronci. Et c'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant. Switcher House, c'est aussi important parce qu'ils ont sorti toute la génération de rappeurs qui va sortir après la fin de la School of Click et de la mort de Screw. Il y a quatre rappeurs très importants de Houston qui vont émettre sortir de ce label-là. C'est Slim Thug, Chamillionaire, Paul Wall et Mike Jones. Donc ça sera très important. Un truc qui va se généraliser aussi grâce notamment à Swisher House, c'est les versions d'albums complets en chopped and screwed. Ce que ne faisait pas DJ Screw, hein, c'était lui, il faisait juste des compiles, des tapes. Là, vraiment, avec un album de 8Ball et MJG qui est remixé par Michael 5000 Watts et qui sera la première sortie sur un label, sur une major, donc un album complètement chopped and screwed, quoi.
Ah ouais, bah on va y revenir, justement. Là, tu as parlé un peu de l'influence locale, de cet héritage sur la scène sudiste, et cet héritage Screw and Chop des années 90 est vraiment marquant, saute aux yeux, mais s'entend vraiment. Là où ça devient intéressant, enfin encore plus intéressant, c'est de voir même comment il a pu déteindre sur des mecs totalement en dehors de Houston. Ça a pu se mélanger même à d'autres styles de musique. Bon, pour ça, on va revenir par exemple au premier morceau de l'émission qu'on avait balancé, qui était Purple Swag d'A$AP Rocky, et qui montre clairement l'utilisation qu'on peut en faire dans un mélange des genres. Et c'est vrai que lui en particulier, j'aime beaucoup, et je trouve qu'il intègre très régulièrement et très bien des passages en Screw and Chop dans ses morceaux, avec un très bon rendu, quoi. Moi qui aurais plutôt du mal à écouter plusieurs morceaux de DJ Screw à la suite, là je c'est plus adapté, enfin je trouve que ça passe mieux, quoi. Et de ce que j'ai compris, d'ailleurs, dans le A$AP Mob, c'était A$AP Yams qui avait ramené ça, qui avait introduit ce délire de Houston. Sauf que lui, on revient encore une fois, à chaque fois, on s'en détache jamais, dans le délire Lean, etc. Et que, voilà, lui, ça a fini exactement pareil, tragiquement pour lui, avec sa mort par overdose en 2005. Donc, et puis on l'avait évoqué, le côté axé sur la Purple Drunk, qui a eu quand même une grosse reprise, je trouve, depuis quelques années. Je sais pas, tu peux dire, il y avait quand même quelques gros rappeurs qu'on a pu retrouver avec des pochettes violettes et compagnie.
Il y a Future, surtout Future, en fait. Enfin, tous, mais le Purple, maintenant, c'est vraiment devenu la drogue des rappeurs, en fait. Moi, j'aurais jamais entendu parler de ce truc, parce qu'en France, de toute façon, il n'y a pas de... Je crois même que ça se développe un peu en France
à cause de ça. Mais il me semble déjà avoir vu des trucs autour de ça.
Ouais, non, mais c'est vraiment depuis les années 2010, c'est vraiment ressurgi partout. Il y a Future a sorti première tape Dirty Sprite, et là il y a encore 3 ans, il a sorti 2 ans et demi, il a sorti Dirty Sprite 2, qui est d'ailleurs un magnifique album. Mais c'est encore, on en revient à ça, quoi. Il est totalement lié à la codéine, quoi.
Ouais, et puis c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre, parce que du coup il y a vraiment une promotion autour de ça qui est pas
saine, ouais.
Ouais, qui est pas très saine, et puis comme tu dis, on n'entend pas non plus des tas de gens s'élever forcément contre ça, enfin en tout cas en France, aux États-Unis j'imagine que si, parce que vu les dégâts que ça fait, c'est quand même assez important. Enfin bref, du coup il y a ce côté là Purple qui a beaucoup ressorti. L'autre influence qu'on peut retrouver de cette période Screw and Chop après, bon, bien sûr, c'est les samples. Ça, de toute façon, chez tous les gros producteurs, les gros artistes, il y a une grosse pratique autour de ça. Moi, j'étais tombé par exemple sur le son de Drake avec Lil Wayne sur Hell Yeah Fucking Right, où derrière on a un sample de ESG, Swinging and Banging, encore une fois lui. Et le dernier truc, je crois que tu l'as évoqué rapidement, mais c'est de dire que c'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé presque. C'est qu'à chaque sortie de gros projets d'artistes vraiment majeurs, on a presque systématiquement une version Screw and Chop qui sort sur des plateformes. Je sais pas, toi tu vois, on peut trouver ça.
C'est sur les trucs là où sortent toutes les mixtapes, en fait. Il y a Dat Pif, Live Mixtape, enfin. c'est là où toutes les mixtapes de rap américain sortent. On peut soit les écouter, soit parfois les télécharger. Et ouais, là, une semaine après la sortie d'un album de Drake, tu trouveras forcément la version School and Chop sur un de ses sites, quoi.
Ouais, il y a vraiment une grosse communauté de fans derrière, une niche, mais bon, après on parle des États-Unis, donc une niche forcément très impressionnante. Enfin, en
surtout comme, enfin, c'est un truc de partage en fait maintenant. T'as un public de niche, comme tu dis, qui est associé à ce style, mais du coup, ce public. Permet de découvrir parfois des rappeurs qui sont remixés, et le public du rappeur peuvent aussi eux découvrir ce style de musique de Shop and Screw, quoi.
Et ouais, donc le Screw and Shop n'est pas mort. Et bon, j'ai jeté un œil aussi pour voir si on sort du cadre américain, ce qui se fait. Pour être honnête, en France, ça a pas trop pris. En Europe aussi non plus, il me semble que c'est pas trop ça. J'étais concentré sur la France. Il y a quelques producteurs et DJ qui ont fait des versions Screw and Shop, notamment de projets de rap français. J'avais vu A13, par exemple, qui est un artiste qui avait remixé Agartha de Vald ou des projets de Sofiane. C'était une interview du Move, d'ailleurs, assez intéressante. Vous pouvez la retrouver, je pense, en cherchant. Et qui disait qu'il y avait une petite niche, quand même, de mecs ici qui font ça et de mecs qui écoutent, même si ça n'a jamais vraiment percé. Et une des choses qu'ils avaient remarqué, qui était assez intéressante à noter, j'ai trouvé, c'était que leur version Screw and Shop de son cloud rap, souvent de projet cloud rap, bon, bien sûr, il y a PNL qui est le principal, et souvent, elles sont plus téléchargées, ils retrouvent plus de public derrière, et du coup, il y aurait peut-être un petit parallèle à faire entre ce genre de musique un peu planante, et voilà, qui pourrait toucher plus les auditeurs.
Ce qui est finalement pas si anodin, parce que... On peut considérer qu'Aïssa Proggy a participé à l'émergence de ce qu'on appelle le cloud rap. Comme Aïssa Proggy s'est inspiré beaucoup de Houston et du Shop and Screw, ça l'a bouclé, un peu bouclé, entre guillemets. Après, ce que tu disais, c'est vrai qu'en France, il y a peu de retours, mais il y a un petit public quand même, mais le truc, c'est que c'est pas du tout institutionnalisé comme aux États-Unis. Du coup, les rappeurs ne s'intéressent pas à ça et ne partagent pas ces versions, parce que même s'il y en a qui existent des versions, les rappeurs ne le relaient pas, quoi. Alors qu'aux États-Unis, souvent les rappeurs, ils aiment bien, ils propagent à travers leurs réseaux sociaux, ils repostent des trucs, des versions remixées, etc., quoi. C'est un flux surtout, quoi.
Ouais. Bah, je crois qu'on a fait le tour. On a essayé de vous faire un peu découvrir justement ce style de rap, de voir un peu de son origine jusqu'à maintenant. Après, en plus, rien ne dit que ça va pas se développer, que ça va pas redevenir encore plus à la mode à un moment. On est à l'abri de rien. C'était la première de Deeply Rooted. La prochaine, ce sera pareil, hein, sur le même concept. On va trouver un style un peu autre et essayer de l'étudier dans un aspect local, de voir comment il s'est développé à tel endroit, en quoi il était vraiment lié à ce lieu et à quel point il était enraciné. Si tu as quelque chose à rajouter, Jojo, peut-être sur des choses pour approfondir le sujet, si ça intéresse des gens.
Ouais, bah nous, on s'est appuyé sur diverses sources. Donc si vous voulez aller voir de vous-même, il y a un bouquin en France qui traite du rap. Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais alors ils sont vraiment très peu connu. Il y en a un auteur, c'est Jean-Pierre Labarthe, qui a sorti son bouquin Gangsta Gumbo. Et il y a un chapitre sur Houston où il parle un peu de ça, ce qui a pu nous inspirer. Sinon, c'est beaucoup des articles en anglais et des bouquins en anglais. Il y en a un notamment qui nous a servi aussi, c'est un bouquin qui s'appelle So Houston. C'est avec beaucoup de photos, surtout des photos et des petites citations de plein de rappeurs, et enfin pas seulement des rappeurs mais des acteurs du quartier, quoi.
Ouais, il y avait un autre, je crois, Houston, The Origin and the Legacy.
Ouais.
De Pharrell, il me semble.
Marco Fagnel ou un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, exactement, excuse-moi. Qui est pas mal, qui traite bien du Houston. Gangsta Gumbo, c'est plus, comme tu l'as dit, il y a une petite partie sur Houston, mais c'est plutôt sur le rap sudiste.
Ouais, c'est un truc plus général et qui s'attarde surtout sur la Nouvelle-Orléans. C'est super.
Ouais, parce que l'auteur, Labarthe, qui est pas mal, mais c'est vrai que lui, on voit qu'il est plus axé sur la Nouvelle-Orléans. Bah voilà, c'était tout pour cette émission. On va se quitter sur un son plus récent d'un autre pilier de la scène de Houston qu'on n'a peut-être pas évoqué dans cette émission.
Je crois qu'on n'en a même pas parlé, alors que c'est quand même c'est Zero. Il faisait partie de la Screwed Up Clique. C'était aussi le cousin de Treza Chose, hein, je crois, qui a sorti Swing qu'on a relayé. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans la famille, quoi. Et là, on ne pouvait pas choisir un autre morceau que celui-là pour finir, parce que il est tiré d'un album qui s'appelle Codeine, donc voilà, je crois que on a bien été assez clair sur le lien qu'il y avait avec la codéine dans la musique dont on a parlé. Et le morceau s'appelle So Houston, donc il dit qu'il représente tellement bien Houston que
toutes les figures de la scène seraient fières de lui, quoi.
Voilà, toutes les figures emblématiques, voilà. Dans le refrain, vous entendrez certains noms qui devraient
qu'on a déjà évoqué dans l'émission. Ouais. Eh ben, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve du coup bientôt pour un prochain sujet. On vous laisse avec le son et on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée, salut.